RMC 100% route.
Frédéric Bradel est là.
Oh là, hey, quelle histoire.
Fred, il a exaucé son rêve.
Tu te rends compte, mais c'est énorme.
On a parlé tellement longtemps ce matin, c'est incroyable.
Eh oui, je rappelle à nos auditeurs, moi j'avais un rêve. C'était enfin que pour son dernier tour, il porte enfin le maillot jaune Romain Bardet.
Parce que rêve réalisé.
C'était notre Raymond Poulidor, deuxième des championnats du monde, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième du Tour de France. Jamais un maillot distinctif. Et là, il est en jaune.
Bravo Romain. Johan Bredov est avec nous.
Salut messieurs, salut à tous.
Eh oui, c'est magnifique ce qui s'est passé. Ben, tiens, pour être honnête avec tous ceux qui nous écoutent, on a la petite séquence, c'était tout à l'heure, midi 14h, je vous le rappelle. Ça s'appelle le prologue, c'est juste avant l'étape. Le rêve de Frédéric Bradel, ça va arriver dans un instant bien sûr, quelques minutes avant que la régie soit en place, mais dans un instant bien sûr vous entendrez le rêve de Frédéric Bradel. C'était évidemment que Romain Bardet soit en jaune. Juste avant, Johan, le classement de cette première étape et les maillots distinctifs, s'il te plaît.
Avec évidemment la victoire de Romain Bardet, juste devant son coéquipier. Lui aussi, on va le saluer parce qu'il a fait un travail absolument remarquable. C'est Frank Vandenbroek, le jeune coureur de la team DSM. Wout van Aert prend la troisième place, juste devant Tadej Pogacar, qui est toujours placé même dans les sprints comme ça. Maxime Van Gils, le Belge, lui termine cinquième pour le top 10. Tiens, Remco Evenepoel est huitième, Peyo Bilbao neuvième et Alberto Bettiol et dixième, lui, le Florentin. Pour le maillot à poids, on a cru pendant un temps que Madouas allait pouvoir le prendre. Finalement, c'est Abrahamsen qui est maillot à poids. On a également pour le maillot blanc, Frank Vandenbroek. Et pour le classement par points, bah là, évidemment, c'est pour Romain Bardet également. Voilà pour les maillots.
Parfait. Et bien justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et roue libre, et bien, ça permet à Jérôme Pinault de lancer, évidemment, cette émission.
Il n'a jamais eu le maillot jaune. Et il y a, je crois, sur ce début de Tour de France, une occasion pour Romain, peut-être, d'aller chercher le maillot jaune. Moi, ça serait mon plus beau rêve, parce qu'il a fait deuxième du Tour de France. C'est un petit Raymond Poulidor.
RMC 100% route, Pinot en roue libre.
Voilà, il y avait Fred Bradel en roue libre et Jérôme.
Pour ma première avec vous, hein, c'est pas mal quand même.
Magnifique, magnifique. Rêve exaucé pour ta première, Frédéric Bradel. Et donc, Jérôme, première fois Pinot en roue libre. On rappelle le principe, c'est ta réaction à chaud après cette étape. Donc après cette première étape et cette victoire, évidemment, de Romain Bardet.
Bah, ma réaction, elle est comme toutes celles des Français passionnés de vélo. C'est les frissons, presque les larmes aux yeux pour un type qui galère, qui est là tout le temps, qui a fait une énorme carrière, qui est un exemple, une exemplarité pour le cyclisme, hein, pour le cyclisme dans sa globalité. C'est quelqu'un d'intelligent qui a tout mis en œuvre pour faire une belle carrière, qui arrive à la fin, qui dit « je vais faire ce tour-là et ce sera le dernier ». Et qui kiffe dès le départ, puisqu'on l'a vu à l'attaque dès les premiers kilomètres. Romain, rappelez-vous, on était déjà en direct tout à l'heure, on se disait « Romain Bardet va déjà dans les échappées ». Il a fait une journée extraordinaire, il a mis à l'avant un de ses coéquipiers qui mériterait lui aussi tous les hommages. Maintenant, il faut un vainqueur et c'est Romain Bardet. Mais Frank Vandenbroek a fait une journée incroyable. Et Romain a pris ses responsabilités à 57 km de l'arrivée avec un fort tempo dû à eux. Il n'a pas hésité à y aller. Il est rentré d'abord sur cette échappée. Il a ensuite fait l'écrémage dans cette échappée puisqu'il est resté uniquement avec Frank Vandenbroek. Et après, quel numéro, vous vous rendez pas compte l'effort qu'il faut faire pour descendre après cette dernière montée dans Saint-Marin et résister au retour du plateau du peloton sur une 4 voies vent de face. Ils ont fait plus de 55 km/h de moyenne à deux avec les frissons, l'émotion. On passe par tous les sentiments dans ces cas-là quand on est sur le vélo et on va remercier ASO, l'organisateur qui a mis 4 virages dans le dernier kilomètre parce que sinon ça ne le fait pas. Et grâce à ces 4 virages, le peloton a dû freiner un peu plus fort que les deux échappés. Et grâce à l'euphorie, le plus grand coureur français de ces 10 dernières années, 15 dernières années, on pense beaucoup à Julien Alaphilippe qui a fait des coups d'éclat, qui a été champion du monde. Mais quelle régularité, quel niveau de stabilité à très haut niveau Romain Bardet peut afficher. On sait les sacrifices qu'il fait. On sait que c'est un garçon qui a énormément de choses à nous donner, beaucoup plus que des victoires en vélo. Chapeau l'artiste, chapeau à lui et un grand coup de chapeau aussi à son coéquipier Vandenbroek parce que ce gamin a 22 ans, il fait son premier tour. Il peut gagner une étape. Peut-être que ça lui arrivera plus jamais. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais pour être maillot jaune. Et il offre ça à son leader qui a un exemple pour lui. Chapeau les mecs et merci pour le spectacle.
Effectivement, on a eu peur quand même. Hein. On a regardé à la fin, on s'est dit mais comment il va pouvoir tenir, parce que toutes les équipes ou presque se sont mises à rouler. Évidemment, on a vu les Lidl Trek rouler pour Pedersen. On a vu toutes les équipes où il y avait des gros bras quoi, qui voulaient remporter évidemment ce premier maillot jaune.
Alors, j'ai un appel d'un certain Rodin qui est en train de préparer une statue pour Frank Vandenbroek. Parce que
t'as raison. Non,
mais ce qu'il fait, ce garçon,
extraordinaire.
Jérôme vient de le dire, mais là où c'est impressionnant, c'est que en fait, il se laisse décrocher. Il était dans l'échappée matinale.
Évidemment.
Il se laisse décrocher. Romain Bardet attaque, mais c'est incroyable. C'est-à-dire au moment où Romain Bardet attaque, il y a la bagarre entre les quatre grosses formations Ineos, Visma, UAE, et puis qui d'autre?
Red Bull Bora.
Voilà, c'est parce qu'ils ont changé de nom. Donc les quatre grosses formations sont au travail et Romain Bardet attaque. Le petit Vandenbroek se fait décrocher, il le ramène et à deux, ils reviennent. Donc à ce moment-là, il y a un quatuor. C'est pas mal parce qu'il y a Abrahamsen et il y a Madouas. Sauf que les uns et les autres sautent. On se dit, le petit Vandenbroek, il va sauter. Il y a Ben Healy qui revient, l'ancien champion d'Irlande, qui peut revenir. Il revient jamais, donc on se dit c'est terrible parce qu'il y a un moment où Bardet va rester tout seul, personne veut être avec Bardet, puis le petit Vandenbroek va craquer. Eh ben non! Et puis sur le final, on se dit mais c'est pas vrai, il est encore là, Vandenbroek, la statue est prête.
C'est clair. Non mais c'est clair. Et c'était un travail niveau, collectif. Oui. Vas-y.
Au niveau du visuel et de l'état de fluidité du coup de pédale, je peux vous dire en étant certain, je suis sûr que Romain, dans ses nombreuses interviews qu'il va avoir après l'arrivée, le dira. Pour moi, Frank Vandenbroek est plus fort que Romain Bardet sur la dernière partie de l'étape.
Ouais,
il est plus fort, il a une consigne, elle est claire. Ouais. Romain est le leader, il va gagner, il va prendre le maillot jaune. Pour une équipe néerlandaise, laisser son leader français prendre le maillot jaune du Tour de France, la première étape, alors que le jeune gamin a 22 ans et il est hollandais.
Oui, Jérôme. Oui.
C'est une grande décision et c'est un grand coup de chapeau à donner aussi au manager. C'est un remerciement pour tout ce qu'a fait Romain dans sa carrière et tout ce qu'a fait Romain pour cette équipe.
Ouais,
puisque
c'est ça.
Cette équipe est portée à bout de bras par Romain.
C'est un juste retour des choses, en fait.
C'est une belle récompense, mais c'est pas facile à prendre, croyez-moi, c'est pas facile à prendre.
Ah bah oui, c'est un juste retour des choses. On en parlait avec Fred pendant l'étape de ce fair play de Romain Bardet qu'il a suivi tout au long de sa carrière, que ce soit d'ailleurs pour son équipe, où il travaille pour les sprints, il travaille tout le temps, Romain Bardet, que ce soit également avec les autres coureurs français, on pense à Julien Alaphilippe, on pense également...
Qui est en ce moment en Slovaquie, qui doit être
en plus
fou, hein, parce qu'il est deuxième du général, là, il doit voir, c'est magnifique.
Moi, je pense aussi à Lenny Martinez sur la Vuelta, Romain Bardet qui l'emmène pour aller lui faire prendre le rouge. Romain Bardet, c'est ça, c'est ce coureur-là hyper généreux avec tout le monde. Et là, c'est un juste retour des choses d'avoir un équipier comme ça qui vient travailler, qui vient lui apporter un des plus beaux moments de sa carrière avec cette victoire d'étape ce maillot jaune. Oui, certainement le plus beau, ça c'est sûr.
C'est magnifique.
Et c'est incroyable ce qu'a fait Romain Bardet. Il est libéré un peu à la façon de Thibaut Pinot l'année dernière.
Exactement.
Où on le sent quand même, je lâche les chevaux, c'est mon dernier et je donne tout. On l'a vu sur Liège-Bastogne-Liège, c'est ce qu'il avait fait. Il termine deuxième derrière Tadej Pogacar. Mais là, c'est
encore
c'est
faut-il
juste
le faire, effectivement, et réaliser son rêve. 33 ans, Romain Bardet, dernier Tour de France, maillot jaune ce soir. On aura l'occasion de se poser la question, est-ce qu'il peut le garder, etc. Mais là, on est dans l'émotion, évidemment, dans Roue Libre. Dans un instant, d'ailleurs, on aura Philippe qui a fait le 32-16 touche 9. N'hésitez pas, 32-16 touche 9 pour nous rejoindre, pour partager avec nous, évidemment, sans doute votre plaisir de voir Romain Bardet au plus haut ce soir.
Mais je rebondis sur ce que dit Johan. Moi, je suis déjà amoureux de Johan. Hein.
Ah bon
Ah oui.
Il y en a beaucoup. Il y a de la concurrence.
Je suis un ancien commentateur du cyclisme, mais je trouve que déjà qu'il travaille très très bien. Non, mais en plus.
C'est beaucoup.
Mais
moi, en revanche, non.
Mais toi, t'es présentateur.
Ah oui,
je dis en tant que commentateur.
Attention, parce que je suis un peu jaloux.
Allez, on y va.
François,
je t'aime aussi. Bon, alors, non, mais ce qui est important, c'est est-ce que c'est le plus grand moment de sa carrière ? Parce que n'oublions pas qu'en 2016, il est deuxième du Tour de France. N'oublions pas qu'il a ramené le maillot blanc à pois rouge. Voilà. Mais c'est vrai qu'il manque. Ce maillot jaune, il a été deuxième des championnats du monde, vice-champion du monde. Est-ce que c'est le plus beau ? Il avait déjà gagné une étape, hein. Il avait déjà gagné une étape sur le Tour de France. Il manquait effectivement ce maillot jaune. Est-ce que c'est le plus beau jour ? On on va dire que c'est peut-être le plus intense parce que ça arrive sur la fin de sa carrière. Donc, d'un point de vue...
D'un point de vue émotivité,
oui. Est-ce que c'est le plus beau? Je sais pas, tu fais deuxième du Tour de France.
Je vais te dire un truc, Fred. Pour moi, c'est le plus beau parce que faire deuxième du Tour de France pour Romain, ça a été une souffrance. Il le dit dans les récentes interviews, il dit... Même en étant deuxième du général, je n'étais pas moi-même. Romain est un... Rappelez-vous comment on a découvert Romain Bardet, échappé pendant 250 km à l'Amstel Gold Race.
Sa jeune carrière, c'est un
mec qui attaque, c'est un feu follet, c'est un tout fou la joie, c'est un mec qui a du panache, c'est un mec qui attaque et qui n'a pas peur de prendre des retours de bâton. Après, il est rentré dans un rôle où il a assumé toute une équipe qui était portée vers le classement général et quel que soit son classement. Combien de fois il a lutté avec Jurdi et avec Vincent Lavenu pour dire « Mais c'est bon, on s'en fout, je vais faire 11e. Laissez-moi attaquer, gagner une étape et si je pète, je pète. » Non, Romain était dédié au classement général. Mais c'était contre nature. Aujourd'hui, il a fait le vélo qu'il aime. Il a fait de nombreuses attaques au départ pour être dans l'échappée. Il n'a pas lâché l'affaire. Il est ressorti de l'arrière. Il est rentré devant. Et Fred, il gagne l'étape et il prend le maillot jaune. Il n'y a pas plus beau dans une carrière de coureur cycliste. Surtout, à la veille de faire stop, de tirer le rideau. Il annonce qu'il va arrêter et il prend le maillot jaune et gagne l'étape sur le tour. C'est juste splendide et ça compte et ça va avec son caractère et son idée du cyclisme. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le plus grand moment de sa carrière et de loin.
18h10, roue libre, bien sûr, jusqu'à 19h avant l'after tour pour toutes les réactions avec l'équipe de Christophe Cessieux. Vous restez branchés sur l'appli RMC et sur la radio 100% en route, la radio spéciale Tour de France d'RMC. On est gâtés, hein, ce Tour de France 2024 commence très bien avec donc la victoire de Romain Bardet. Je suis sûr qu'au 32-16 touche 9, on est heureux. À l'image peut-être de Philippe que l'on retrouve. Salut Philippe.
Alors moi je suis ravi, hein, parce que j'avais peur, je vous le cache pas, j'avais peur d'un tour directement écrasé par le monstre Pogacar. Et puis là, première étape, paysage magnifique, parcours difficile, chaleur, et un attaquant qu'on adore, qui mérite, qui est récompensé. Là, ça démarre très très bien. Voilà, moi je pense que Bardet, non seulement un très bon coureur, mais il a un excellent état d'esprit. Voilà, il fait deuxième du tour derrière un gars qui est un peu sulfureux. Bah là, au moins, il touche une récompense bien méritée pour sa carrière.
Ouais, toi, tu suis le vélo depuis quand, Philippe ?
Depuis quand ? j'ai regardé. Allez, depuis 60 ans, alors tu vois.
Coursier, voilà. Philippe ou pas ? Coursier ?
Alors, triathlète et coursier, ouais. Cyclocross.
En plus, triathlète, on a quelques passions en commun. Alors.
Je me souviens de tes commentaires, Frédéric, qui étaient très, très bien.
C'est gentil.
Tu vois, tu le retrouves sur RMC maintenant.
Si vous avez besoin de vélo, les gars, n'hésitez pas. Tree for Bike à Pornic, on est ravis.
Il est là, le Jérôme.
Petite publicité, mais c'est autorisé. Jérôme Pinault, il est là pendant tout le tour. Il a bien le droit de faire sa pub. Et en plus, ça doit être sympa. L'accueil est sympa là-bas.
Et je serai à partir de mardi avec vous et depuis le magasin où les clients seront là à venir voir un peu comment se passe notre émission et comment être notre petit carnaval entre nous. Très sympa.
Philippe a dit un truc super intéressant.
Il est toujours là, Philippe, il t'écoute.
Oui, Philippe, c'est Frédéric. Donc. Quand tu dis « j'avais peur que Pogacar écrase », et en fait, ça aurait pu être le cas, sauf que, je ne sais pas si vous avez vu les uns et les autres, mais on est à peu près à 50-70 bornes de l'arrivée. Et on a
RMC,
5 Visma Lease a Bike, on a 5 Ineos Grenadiers, on a 6 Red Bull, et tout le monde, en fait, les grosses armadas dont on avait parlé en début de journée, elles sont là. Et à partir de ce moment-là, les UAE ne sont plus en majorité. Il y a Velens en plus qui s'est fait lâcher. Et ils ont commencé à se dire « Oh ben c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va pouvoir faire sauter Vingegaard. Il y a de gros collectifs. » Donc je pense aussi que Pogacar n'a pas écrasé aujourd'hui. Et Philippe, effectivement, c'était une info importante que tu nous donnais. Mais ça nous amène sur ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont craqué, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la fenêtre, et Vingegaard avec ses gars et toutes les grosses équipes étaient là. On avait dit, la crainte, et il a raison.
Philippe, de voir Pogacar prendre le jaune et puis ne plus jamais lâcher jusqu'au bout. Donc, effectivement, le Tour de France commence très bien. Non, mais on est satisfait de tout ça. Philippe, tu restes avec nous.
Il y a une image fabuleuse, les garçons, en vous parlant, et je regarde les images. le Romain Bardet qui vient d'enfiler son premier maillot jaune de sa carrière et qui, face au maillot jaune, s'arrête et fait waouh.
C'est génial.
Ah, il est beau avec le maillot jaune.
Il se rend compte de ce qu'il a fait. Il est magnifique avec ce maillot.
Et en plus, il vient de prendre le petit lion là, le petit lion. Là. Et même les fleurs sont jaunes.
Ah, c'est vrai que pour le petit lion, qu'est-ce qu'on ferait pas? On va écouter justement Romain Bardet juste avant de monter sur le podium, interrogé par nos équipes qui sont ultra réactives. Vous l'avez compris à RMC, elles ont pu interroger le vainqueur du jour, porteur du maillot jaune. Premier maillot jaune de ce Tour de France 2024, Romain Bardet, écoutez-le.
Comme quoi, dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent. C'était sublime. Voilà, on a attaqué le tour avec un super état d'esprit. C'est la première fois où je souris avant le départ d'un Tour de France. Et de ne pas faire le général, ça m'enlève une pression énorme. Et je suis enfin moi-même. Et courir sans arrière-pensée, c'était fabuleux parce que. Voilà, j'ai eu l'instinct. Je connaissais pas vraiment le parcours, mais j'ai eu l'instinct. Je voyais beaucoup de coureurs souffrir et je me sentais vraiment bien. Je savais qu'on avait Franck qui est très fort devant. J'ai dit, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, je perds 20 minutes et c'est terminé. Et j'ai dit, on y va. Et puis après, Franck était super fort. Je crois que ça l'a remotivé aussi que je vienne devant. On a vraiment décidé de rester tous les deux et honnêtement, il le mérite autant que moi parce qu'il m'a tiré sur le plat à la fin. C'est vraiment un grand talent et j'ai pas les mots, je réalise pas encore en fait ce qui se passe.
Romain Bardet à l'instant, donc c'était il y a quelques minutes. C'est super en plus, évidemment. Bon, ça c'est très vélo, mais ce côté collectif, quand il met à l'honneur aussi son coéquipier qui l'a porté jusqu'au bout.
L'image sur la ligne d'arrivée, elle est incroyable. Avant de célébrer pour lui-même, il remercie son coéquipier. C'est la première chose qu'il fait. Quand il le passe, déjà, il le regarde, il lui dit merci. Et quand il se lève sur le vélo, c'est vers lui qu'il se retourne avant de lui-même célébrer et de dire « j'en reviens pas, je vais avoir le jaune et j'ai gagné l'étape ». Voilà, c'est comme disait Jérôme, et je suis désolé de t'avoir coupé, mais ouais, c'est du Romain Bardet dans le texte, et c'est un grand monsieur du vélo. Un gentleman, en fait.
Un gentleman,
ouais, non, vainqueur. C'est exactement ce que tu dis, Johan. C'est amplement mérité pour le garçon, mais tout de suite, il a la hauteur pour analyser. Alors parfois, il a été moqué par cette analyse parce qu'il avait une pression énorme. Moi, ce que je retiens de sa phrase, c'est combien de Tours de France, Romain Bardet. Et il dit, c'est la première fois que j'ai le sourire au départ du Tour. Imaginez, avant, c'était un supplice pour lui parce que c'était quasiment de la souffrance permanente. Il avait le devoir du résultat sans prendre son pied. Et là, c'est l'inverse. Il dit, je vais pas prendre, je m'en fous, je peux prendre 20 minutes, mais par contre, je vais tenter, c'est mon dernier, je vais kiffer. J'ai envie de dire, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas laissé faire ce qu'il avait envie avant, parce qu'on aurait vécu des grandes émotions avec ce genre de coureur.
Effectivement, Romain Bardet, donc maillot jaune. On va avoir l'occasion de parler jusqu'à 19h bien sûr des contre-performances françaises, parce qu'il y en a aussi, notamment David Gaudu. Mais on va continuer peut-être avec Vincent qui est au 32-16 touche 9. J'en profite pour remercier Philippe qui était notre premier auditeur. Vincent nous rejoint aussi peut-être pour parler de Romain Bardet. Salut Vincent.
Bonjour à toute l'équipe. Ah ouais, pour parler de Romain, ouais, non, là, c'est un kiff, là.
Allez, Vincent, plus, bon,
je
Vincent.
Je vais vous confier quelque chose. Je suis de Roya dans le Puy-de-Dôme.
Ah oui,
en plus. Voilà.
Je le croise, et attendez, je vais même vous dire mieux. Nos enfants à Comeung sont dans la même école. Et je peux vous dire que ce mec, de ce qu'il fait paraître à la télé, c'est le même mec dans la vie de tous les jours.
Ah,
simple, poli, d'une gentillesse. Comparé à d'autres sportifs auvergnats connus et reconnus pour des titres mondiaux qui ont un boulard surdimensionné, c'est monsieur tout le monde.
On ne citera pas de nom, on a un peu près
monsieur tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Non, mais je vous jure, c'est honnêtement, là,
Tu le croises devant l'école avec tes enfants, quoi. Tu amènes tes enfants à l'école et il y a Romain Bardet avec
tes enfants à l'école.
En vélo ? Il vient en vélo ?
Alors, ça dépend si derrière il part avec quelque chose ou pas. Ça dépend.
Bon, c'est sympa, en tout cas.
Franchement, c'est un kiff, mais de le voir gagner cette étape-là. Quand on le voit partir à 50 km, qu'il n'y a personne qui démarre derrière lui, on se dit putain, c'est osé. Les sprinteurs, on se dit Lidl, là, l'équipe avec Pedersen, ils vont peut-être essayer de faire le forcing. Jumbo, ils vont essayer de l'offrir à Van Aert, vu que l'an dernier, ce qui lui est arrivé. Et il n'y a personne qui est capable de remonter, quoi. Personne n'est capable de remonter sur les deux. C'est génial. Alors, en plus, les deux ensemble, coéquipiers, qui s'entendent super bien. Ah, franchement, c'est du velours. C'est du velours à regarder. J'espère que d'autres Français vont nous faire kiffer ces émotions. Après,
ça va peut-être être décomplexé, t'as raison.
Je sais que Jérôme va me dire que je suis fou de dire ça, Non, mais putain, Bardet, fais-nous une Vauclair. Fais-nous une Vauclair, mais jusqu'au bout, quoi.
C'est 10 jours, hein. C'est 10 jours, Vauclair, Vincent. C'est 10 jours en général en jaune.
Non, 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 mais jusqu'à l'avant-dernière étape, mais lui qu'il aille au bout, putain, mais merde. Tranquille jusqu'à la promenade des Anglais.
Non,
on a envie de rêver.
Ah, non, mais alors, Vincent, il y a une chose, moi, qui m'interpelle dans ce que tu dis. C'est que, oui, il peut le garder longtemps, sauf qu'il y a. Alors, bon, pour nous, les amateurs de Chevrey-Chambertin et tout ça de Pinard, oui.
Avec modération.
Ouais, voilà.
Il y a un chrono très
voilà.
vite. Hein.
Mais il y a un chrono très vite. Et puis, quand Jérôme dit oui, il ne pouvait pas jouer le général, bah, il fait quand même deuxième du Tour de France en 2016 entre Christopher Froome et Nairo Quintana. C'est quand même énorme. Et si ce Romain-là avait eu un petit peu plus de compétences en contre-la-montre. Et là, le manque de savoir-faire, de formation dont parle souvent notre Cyril Guimard, des Français qui travaillent pas assez sur le contre-la-montre. S'il avait fait ça, il l'avait peut-être. Et même chose pour Thibaut Pinot, d'ailleurs. Hein.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Fred. Après, on va pas refaire l'histoire, mais le côté contre-la-montre, Cyril a beau nous dire que bon, c'est une science, etc. Voilà, il aime bien. Bardet n'est pas fait pour aller vite au chrono et il n'aurait jamais été vite au chrono. Il aurait pu limiter la casse. Sur ce tour où il fait deux, il tombe sur un os. J'en parlais ce matin à demi-couvert parce que vous savez ce que j'en pense de tout ça, mais un Chris Froome, une étoile, une comète, un mec qui attaquait assis sur la selle avec des cadences de pédalage. Moi, il ne m'a pas fait rêver, mais il a bouffé un tour à Bardet quand même. Ouais. N'oublions pas ça.
Bon, il en a gagné quatre aussi, hein, Froome. Quatre tours,
Et surtout, ce tour en route quand
l'équipe ce tour dont vous parlez en 2016, l'étape où il part avec Chirel dans la descente de Dromancy, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, de Dromancy, je crois.
Dromancy,
et il va gagner le lendemain. Vu la tôle que s'était pris Froome, j'ai jamais compris pourquoi il est pas première descente, il tente pas une descente de malade. J'ai jamais compris. Parce que le lendemain, rappelez-vous, c'est une étape de montagne aussi avec des descentes difficiles. Et Froome, il a la trouille sur son vélo. Il a la trouille dans les descentes. J'ai jamais compris pourquoi j'ai deux heures à pas tenter le coup ce jour-là. Quitte, ça pète, on s'en fout. S'il pétait le Tour de France, il le pétait. S'il le pétait, on s'en fout. Le deuxième ou cinquième.
Vincent, un podium, c'est top. T'es sur la photo quand même.
Cette année-là, il l'avait, la gagne. Il l'avait. Moi, cette année-là, il l'avait. Et surtout, ce que j'adore avec ce mec, c'est 2019, comparé à d'autres coureurs qui jouent le général, il pète au général en 2019. Tout de suite, il a été capable de se mettre et d'aller chercher le maillot à poids. Comparé à d'autres qui ont lâché. Vous disiez Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, c'est un mec, il était des compétences qui étaient exceptionnelles en montagne. Je pense qu'il n'y a personne qui va me contredire. J'ai jamais compris ce mec, quand il se faisait péter au général, pourquoi il n'allait pas chercher ce maillot à poids. Comme faisait un Virenque, comme a fait un Virenque, qui était adoré des Français, j'ai jamais compris. Vauclair l'a fait également. Je prenais l'exemple de Vauclair. Vauclair le fait une année où il part avec Charteau et le Japonais à l'époque pour le défendre dans sa dernière étape et en vibrer. Moi, c'est des trucs comme ça qu'on veut voir. Après, voilà, Romain, s'il peut tenir le maillot jaune aussi longtemps qu'il peut, mais.
Il y avait le rêve de Fred Bradel.
Ceux qui sont pas contre la montre, au moment où Pogacar qui arrive de garde, il passe, vous jetez des clous, vous jetez des courbes.
Non, Vincent, on aime le vélo, on aime les coureurs ici.
Non, mais l'équipe, pour Vigne de Garde, je veux voir ce qu'ils ont prévu, parce que ce que j'ai regardé, le Netflix Tour, là, sur le truc, où ils nous expliquent qu'ils ont tout huilé à la tenue taillée, à la corse prise. Je veux voir s'ils ont prévu.
Il est dans le fond. Il faut savoir maintenant que ce sont des tubeless. Avec les tubeless, on crève plus difficilement. Donc ça sert à rien.
Vincent est dans l'euphorie. Voilà. Il s'imagine déjà avec Romain Bardet en jaune à Nice. On peut le comprendre. Il y avait le rêve de Fred, c'était qu'il soit en jaune. Il y a le rêve de Vincent, c'est qu'il reste en jaune jusqu'au bout.
Excusez-moi, les amis, juste vous interromps. Je viens de tomber sur une image. Il est 18h22 et David Godu vient juste d'arriver dans un groupe.
On va en parler. De David Godu. Tu voulais rajouter quelque chose?
Alors, je disais que j'ai vécu cette expérience dans ma carrière avec Sylvain Chavanel, qui avait été chercher le maillot jaune à la force d'exploit, un peu comme vient de le faire Romain aujourd'hui. Et notamment, je me rappelle de l'étape des Rousses. Je peux vous dire que le lendemain, c'est très difficile. On vit tellement un déo émotionnellement parlant, des très très hauts avec tout ce qui va suivre à partir de maintenant pour Romain, maillot jaune, la médiatisation, tout ce qui va se passer autour. Il va pas bien dormir et demain les jambes elles sont très lourdes en général. À la suite d'un exploit comme celui-là avec maillot jaune à la clé, l'étape de lendemain elle va être très très difficile. Mais malgré tout, je vais dire, on s'en fout. Il est venu pour c'est faire clair. Ça. Il nous a fait rêver aujourd'hui. Et heureusement qu'il a fait ça. On va en parler juste à suivre parce que ça va peut-être redonner un petit coup de morale aux Français qui, ce soir, l'ont plus dans les sockets qu'ailleurs, à mon avis.
Alors, on va remercier Vincent. Tu as été parfait, Vincent. Hein, franchement, tu reviens quand tu veux.
Pas les clous, Vincent.
On est d'accord, pas les clous. Pas les clous, mais ça, c'est l'euphorie, je vous ai dit. Voilà.
Non, mais non, mais pas les clous, ne vous inquiétez pas. Par contre, si je peux réagir juste 30 secondes sur les Français.
Bien sûr.
Gaudu, je ne sais pas, Martinez, à combien il est arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je connais un Marc Maillot qui risque de se prendre une balle de Team Jumbo Visma, quoi, encore. Hein. Bon, après, bon, Team Jumbo, comme j'ai dit.
Chacun son vélo.
Non, mais Jérôme, je vais te dire une chose. Autant l'an dernier, on s'était déjà eu dans l'After Tour. Et c'est vrai que j'ai compris que tu entendais beaucoup avec Pogi, l'équipe de Pogacar, et pas trop avec Jumbo. Ce que j'ai vu sur Netflix cette année sur Jumbo, mais ça m'a écœuré de leur équipe. Honnêtement, ça m'a écœuré. Alors que j'adorais les Van Aert, les Vingegaard, c'est des mecs que j'adorais. Mais j'espère qu'une chose, ils vont se faire démarrer. J'espère qu'ils vont se faire démarrer, qu'ils vont pas taper une étape. Ah non, ça m'a écœuré. Je vous jure, l'équipe, ça m'a écœuré de voir Van Aert qui explique que Philipsen, il sait kiffer, c'est très limite. Robert, tu fais des VTT, tu vas me faire voir que tu mets jamais un coup d'épaule dans le peloton pour défendre. Ah, sérieux, faut pas déconner.
Et Vincent,
c'est apéro ou quoi aujourd'hui?
C'est Vincent en roue libre, mais c'est le nom de l'émission en même temps. Vous venez quand vous voulez, vous venez comme vous êtes. Dans roue libre comme Vincent, en tout cas merci Vincent, t'as été parfait. En plus tu croiseras donc toute la famille Bardet ensuite plus tard quand les enfants reviendront à l'école, donc tu pourras faire une petite fête, j'imagine. J'espère que dans l'école, alors là tu vas me dire ça Vincent, mais j'espère que dans l'école vous allez prévoir un truc pour Romain Bardet pour le retour à l'école.
Ça, je sais pas, pour avoir avec la directrice et compagnie, mais
tu fais pas partie des parents d'élèves, fais quelque chose. Franchement,
non, je suis pas parent d'élèves, je suis pas dans les assos, moi c'est le mec qui est simple, je vous jure.
Faut organiser un truc.
J'ai le plaisir de côtoyer d'autres présidents de clubs et compagnie, et ils le disent, quand on voit avoir un Romain Bardet, on a un retour, on a une réponse de quelque chose. Je vous jure, il y a d'autres pseudo starlettes auvergnates. Mais c'est un enfer. Mais c'est, les mecs, ils vous traitent comme de la merde.
Bon, on embrasse tous les auvergnats. On embrasse tous les auvergnats qui nous écoutent, et il y en a notamment dans ma famille. Donc je les salue. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Et tu reviens quand tu veux. 32-16 touche 9, vous l'avez compris, c'est roue libre. Donc c'est vraiment antenne ouverte pour tout le monde pour venir débriefer les étapes du Tour de France tous les soirs entre 18h et 19h. On va aussi écouter les premières réactions. Il y en a une, messieurs, que je voulais vous faire écouter. C'est celle d'un des coéquipiers de Romain Bardet aujourd'hui.
Warren
et Warren Bardet. Au micro de nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. Écoutez.
Fierté de voir un copain Romain s'imposer comme ça avec la manière en plus.
Ouais, c'est surtout aussi un coéquipier. C'est mon collègue de chambre. Donc forcément, ouais. T'es hyper motivé au départ ce matin. Romain, il est bien sorti du Giro. Et il me l'a dit. Qu'il avait les jambes de sa vie. Et ouais, pendant l'étape. On a fait du super bon boulot au départ pour sortir. J'ai essayé de sortir, Romain a essayé. Et Franck est sorti, donc c'était le plan parfait pour nous. On voulait avoir absolument quelqu'un devant. Et puis Romain, dans l'avant-dernière ascension, il a demandé à la radio s'il pouvait attaquer. Et dans l'équipe, c'est l'esprit offensif est vraiment mis en valeur. Donc si on demande à la radio et qu'on le sent vraiment bien, l'équipe nous laisse. Et ouais, je pense que c'était... Ouais, je vais pas dire que c'était le coup parfait parce que... Parce qu'il a gagné, mais oui, c'était audacieux. Et c'est aussi récompenser un peu la malchance qu'on a eue en début de saison.
Warren Barguil, donc, c'était il y a quelques instants après la victoire de Romain Bardet. On sent l'émotion du Français, coéquipier de Bardet.
Qui lui, avait connu un moment fabuleux. Il avait gagné l'étape du 14 juillet avec le maillot blanc à pois rouge. Mm-hmm. C'était au Puy, je crois. Il fait partie de ces coureurs qui visent...
À Foix,
dans l'Ariège, pardon. Oui. Mais c'est vrai que les deux villes se ressemblent. Enfin, bon, on va me dire n'importe quoi, mais bon, non, voilà. Mais peut-être. Ça fait partie de ces coureurs qui ajoute à la victoire une dimension émotionnelle. Oui, alors, ça peut être avec un maillot distinctif, ça peut être pour chercher un maillot distinctif, il y a plein de choses.
T'as raison, Romain Bardet, c'est de l'émotion avant tout. Ouais. C'est comme Thibaut Pinot, pourquoi ils ont entraîné même comme ça des fans. Parce qu'ils ont cette façon de courir qu'on a envie de les suivre. Quoi. Ils ne sont pas tous comme ça. Et d'ailleurs, il y a un fan club, je crois, de Romain Bardet qui se prépare là, pour lui rendre hommage.
C'est une différence, et on va en parler, mais c'est la différence, je trouve, majeure avec quelqu'un comme David Gaudu. Qui a toujours été plus dans le calcul, qui a été beaucoup moins offensif que l'ont été Romain Bardet et Thibaut Pinot, et que l'est encore Romain. Et c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on entre dans le cœur des Français. On le sait que...
Ça viendra.
Ça, oui, ça, pour qui? Pour David.
David Gaudu. Bon, oui, je sais, ouais, tout à l'heure, oui. Je vous ai dit, il ne faut pas l'enterrer. Ouais, là. Ouais, enterré, on va en parler de ça.
On va en parler, il est arrivé très loin.
Ce qu'il y a en plus, c'est que Romain, aujourd'hui, les gens le redécouvrent. Je pense qu'il n'avait pas cette image-là plus, au départ, ouais. Puisqu'il avait une pression telle de faire le général.
Bien sûr.
Il a,
ouais,
il a ce côté très cultivé qui, dans la culture globale du vélo, j'espère que j'ai gratté une personne, mais c'est un peu au-dessus de la moyenne des suiveurs lambda du vélo, avec ses explications, des fois un peu de morosité, un peu d'encéphalogramme plat quand il répondait aux interviews, parce qu'il était tout dans le contrôle. Et je pense qu'il a pris vraiment conscience de ça il y a 5-6 ans maintenant, où il se lâchait, quoi. Il se lâche maintenant, Romain. Moi, j'ai eu une longue discussion avec lui à l'occasion d'un mariage d'un de ses anciens coéquipiers, d'un coureur à moi. J'ai passé une heure et demie à discuter avec ce type-là. Je peux vous dire, c'est un régal. Il connaît tout sur tout. Il s'intéresse aux autres. Il s'intéresse à la vie des autres. C'est un mec qui est hyper ouvert. Et clairement, je suis d'accord avec notre auditeur qui était super excité tout à l'heure. Le vrai Romain Bardet, c'est vraiment un chic type. Il est dans la retenue. Là, il n'y est plus du tout parce qu'il sait que c'est la fin. Et il a trop mangé son pain noir en étant sur les freins. Et aujourd'hui, il se régale et il nous régale. Mais c'est vraiment la définition du chic type.
C'est quelqu'un. Alors, moi, j'ai eu vraiment le plaisir de le suivre pendant toute sa carrière. Souvent, régulièrement, il y avait les interviews. Et je me souviens, une fois, c'était lors de la présentation. Chaque année, les équipes invitent, il y a une présentation. Et on fait un plateau tous les deux. Et notre cadreur dit « Oh là là, je suis désolé, j'ai eu un problème, tout ça. » Et moi, je suis un peu mal à l'aise parce que Romain, il était très pressé, tout ça. Il me dit « Non, non, t'inquiète, cool. » Mais ça, franchement, ça, je me suis dit « Bon, c'est la grande classe. » Et puis, on parlait tout à l'heure de son maillot blanc à pois rouges. Je l'attends à l'hôtel. Alors, vous avez vu que je mélange les villes. Hein. Donc, on était dans... On était...
Mélange les dates, voilà, les villes.
Non, pas les dates, pas les dates. Mais on était à la montagne et je l'attends à l'hôtel et il arrive avec son maillot blanc à pois rouges. Et en fait, il avait raté son Tour de France. Et ça se joue sur l'avant-dernière étape. Il va le chercher. Et il revient. Il a les larmes aux yeux. Il est comme si, finalement, il s'était libéré d'un poids. Parce que, et Jérôme l'a bien dit, il a toujours eu un poids sur les épaules. Cette espèce d'exigence intellectualisée de l'effort qui a fait que notre Romain... Exactement. Et aujourd'hui, Bardet, c'est comme Pinot. Et Pinot, Bardet, et non pas Bardot-Pinet. Voilà. Et
magnifique.
Je vous en ai fait une ce matin avec Pelé.
Mais celle-ci, c'est pas préparé.
Non, pas voilà. Là, alors je vous la donne. Voilà, donc je vous la donne.
Ça mais absolument rien dire. Bardet, mais c'est très bien.
Non, mais Bardet, Pinot et non pas Pinot, Pinet, Bardot.
Non.
Voilà. Mais
aucun rapport.
C'est super. Non, mais comme on a un François Pinet au micro et que je suis très ami avec Brigitte Bardot.
Ah d'accord.
Non, non, je suis pas ami, mais enfin bref.
Ok. On va tout savoir dans Roue Libre. C'est ça, Roue Libre aussi. On connaît les coulisses aussi de la vie de Fred Brindel. Vous revenez dans quelques secondes seulement, parce que dans un instant, il y aura David qui sera avec nous au 32-16 Touche 9. Vous l'avez compris, c'est votre émission. Vous venez nous dire ce que vous avez pensé de l'étape. On va parler, bien sûr, sans doute avec vous de Bardet, mais on va aussi parler des autres Français, parce que c'est une des choses à retenir, la défaillance notamment d'un David Gaudu. On en reparle dans un instant. Restez avec nous. On revient dans Roue Libre. À tout de suite.
RMC 100% route, 18h-19h, Roue Libre.
François Pinet.
Je vous l'avais dit que c'était court, Roue Libre, ça continue évidemment, voilà, avec Jérôme Pinot toujours là, avec Frédéric Brindel, avec Johan Bredov, pour évidemment rendre hommage à Romain Bardet, premier porteur du maillot jaune de ce Tour de France 2024. Il est 18h32 et à partir de 19h, ça sera l'after tour pour continuer, toujours en direct sur l'appli RMC, sur la radio RMC 100% route, pour continuer bien sûr de débriefer cette victoire de Romain Bardet, avec vous aussi au 32-16 Touche 9, avec David qui est avec nous. Salut David!
Salut équipe.
Alors
salut,
comment David. Tu te sens? T'as vibré j'imagine comme tout le monde hein.
Ouais, j'ai vibré. En fait, moi, j'ai deux poids de mesure. C'est que je suis content parce que Romain Bardet a gagné avec son travail de son équipe avec Van der Broek, et je suis aussi content parce que la Jumbo-Visma qui roulait pour essayer de ramener leur sprinter, moi j'ai oublié son prénom,
Van Aert.
Wout Van Aert n'a pas réussi. Parce que je suis comme Vincent, je suis dégoûté de cette équipe, la Jumbo-Visma. Mais moi, j'ai pas vu le reportage. Je suis dégoûté depuis la dernière Vuelta. Qu'ils ont fait tous 1, 2 et 3 et qui ont neutralisé la course. Et là, je suis content, on a vu une course de mouvement, on a vu des échappées, ça a bien bougé et je suis bien content que pour une fois, une échappée aille au bout et que ce soit un Français qui porte le maillot jaune.
Mais ce que dit David, effectivement, bon, quand on est supporter, David, c'est vrai que ça prend en trip. On a vu la team Visma rouler pour Van Aert, mais ce qui avait pire encore, ce sont les Lidl Trek hein, qui ont énormément roulé parce qu'il y avait Mats Pedersen dans le coup.
C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir à ces équipes
alors,
de rouler.
Bien sûr. Oui, François, mais j'ai bien précisé que quand on est supporter, ça fait ça. Voilà. Mais c'est vrai que ça donnait les nerfs, mais en tout cas, sur cette étape, ils n'étaient plus nombreux. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 48 à pouvoir gagner officiellement le Tour de France parce qu'il y avait 48 coureurs dans la première partie du groupe. Et après, ça explose. Je pense que Johan nous en donnera quelques exemples après. Mais franchement, quelle étape et le fait que des équipes comme Visma, comme dit David, ou Lidl Trek aient pu avoir encore 4-5 coureurs pour rouler, ça rend encore plus fantastique la performance du duo de Vandenbroeck-Bardet. Ouais.
Et c'est un nouveau c'est un nouveau départ à l'étranger qui est pleinement réussi. Ah oui. Déjà l'année dernière, on avait eu deux premières étapes absolument incroyables avec déjà Pogacar, Vingegaard qui s'était attaqué, Victor Lafebvre avait suivi et avait gagné la deuxième. Là encore, c'était une étape, il y en avait partout, c'était incroyable. Ouais. Alors, il y a la victoire au bout de Romain Bardet, évidemment, ça décuple encore les sensations, mais l'étape en elle-même est juste grandiose.
Jérôme ?
Le parcours de l'étape était difficile, et la preuve, hein, elle a épaillé un certain nombre de coureurs, et notamment nos coureurs français. Je voulais revenir sur ce que disait David, mais et sur la chasse derrière les deux coureurs. Il y a deux choses, deux faits de course qui m'ont un peu choqué. Non pas que Jumbo, enfin que Visebike roule parce que Van Aert et parce que je pense qu'ils ont intérêt de gagner des étapes. On ne sait jamais pour le général. Et de deux, Lidl Trek normal. Pedersen s'est arraché pour basculer dans la cinquième difficulté. Ensuite, il a suivi, il n'a pas été lâché. Donc logique que ces deux équipes-là roulent. En revanche, moi j'aurais mangé le canapé si c'était rentré parce que qu'est venu faire EF. Et que sont venus faire les Ineos dans la chasse.
Ouais, EF, alors, avaient Alberto Bettiol, le champion d'Italie.
Il y a Van Aert et Pedersen dans un groupe au sprint. Tu veux faire quoi, troisième ?
C'est bien, j'étais encore plus énervé que toi, Jérôme.
Impossible. Ouais. Et encore plus Ineos. À un moment donné, ils ont évoqué pour Pidcock. Mais depuis quand Pidcock il va plus vite que Van Aert et que Pedersen ?
Il l'a déjà battu au sprint sur l'Amstel.
Ouais, non, mais l'Amstel, c'est une classique d'un jour, c'est pas la même histoire. Hein.
Non, mais j'essaye de les excuser.
Tu viens pas rouler comme ça, et c'est le fait de ces deux équipes qui ils ont battu. Tu vois, EF, ils avaient Benili, pourquoi il a pas démarré en même temps que Bardet ? Il a attendu une bosse de trop. Et derrière, c'est lui qui roulait, ça m'a rassuré aussi, parce que je dis, s'il a pas réussi, lui, à boucher tout seul, pas parce qu'il roule avec des mecs dans la roue, qu'il va aller plus vite. Donc ça, c'était cool. Le fait que Jumbo, que Lisebike vienne rouler. Lidl roule. Lidl, normal, le leader, c'est Pedersen, ils veulent gagner les étapes. Lisebike a laissé beaucoup de cartouches, et notamment Jurgensen. Tout à l'heure, on a parlé de Jurgensen, potentiel coureur. Ouais. Ça fait beaucoup de cartouches. Alors, soit ils sont sûrs
plus
et certains...
Plus Kelderman. Hein.
Que leur petit... Ouais, Kelderman. Soit ils sont sûrs et certains que leur génie qui ne fait pas de vélo et qui est resté 3 semaines à l'hôpital va gagner le tour, ou alors ils font une grosse erreur.
Mais
gens-là connaissent parfaitement le vélo, ils nous l'expliquent tous les ans, on va les croire.
Il y a la control room.
David aussi.
Dans la control room, ils ont dû analyser les watts.
Ils sont en train de le faire, là. David, on va parler d'un autre David aussi, puisque c'est vrai qu'on l'a dit en début de ce roue libre, Romain Bardet, c'est normal de parler pendant 40 minutes de la victoire de Romain Bardet, et on va continuer d'en parler demain à partir de 11h dans le prologue tous les jours donc sur la radio digitale du Tour de France. Mais David Gaudu, c'est une catastrophe pour lui cette première étape. Je demande à David là.
J'ai pas entendu la fin.
David Gaudu et les autres Français, mais on va s'intéresser à David Gaudu. C'est une catastrophe d'être lâché à 70 km de l'arrivée.
C'est plus une catastrophe. À un moment donné, je pense que la préparation n'a pas été au niveau. Elle n'a pas été au niveau pour être lâchée comme ça. Que ce soit Gaudu, que ce soit le groupe Cavendish qui est en quasiment plus d'une demi-heure de retard. Là, il y a un problème de préparation. Ça roulait pas exceptionnel hein, aujourd'hui. C'était pas.
T'es dur. On a perdu 90 coureurs du meilleur peloton du monde quand même. Donc c'est que c'était pas tranquille quand même.
Ça roulait fort, mais ça roulait beaucoup plus fort l'année dernière. Mais là, je trouve qu'il y a un problème de préparation. Il y a un problème de préparation pour David Gaudu. Et je pense que là, il n'est pas au rendez-vous, à moins que son pic de forme soit prévu dans 3 semaines sur les Champs-Élysées. Mais il a un problème.
On n'y va pas sur les Champs-Élysées, David.
Ouais, sur Nice.
Non, mais c'est l'habitude. Moi, je suis tellement habitué que ce soit sur les champs. Donc, bah, juste, jusqu'à Nice. Mais,
juste pour donner le classement de David Gaudu, parce qu'on ne l'a pas donné, il termine 136e de l'étape à 29 minutes et 14 secondes de Romain Bardet. Il est dans un groupe où on a Lenny Martinez qui est là. On a Kevin Vauclin aussi, dont on attendait peut-être un peu plus. Michael Matthews pour donner d'autres coureurs comme ça. Donc, ouais, oui, non, déjà une demi-heure de perdu dès la première étape. Hein.
Que Cavendish prenne 40 minutes. Oui. C'est une logique sur une étape comme celle-ci et on le sait, c'est un pari hein, pour l'équipe Astana. Maintenant que Gaudu soit lâché dans la même côte que Brian Cocard et que Michael Matthews, là, il y a un vrai problème. Ouais. Quand on voit Gaudu et Dylan Martinez se faire lâcher alors qu'il reste encore 60 coureurs dans le peloton, dont Aramburu, dont Van Aert, dont Pedersen, on se dit qu'effectivement, chez Groupama, ce soir, on va se dire mais comment on va passer ces trois semaines, parce qu'il n'y a pas que ces deux-là, hein, il n'y a pas un coureur Groupama dans le peloton.
Il y a Madouas
aujourd'hui.
Hein, qui a fait quelque
chose.
Madouas,
non, mais justement. Madouas, ça fait une belle étape, c'est ouais. tout, c'est le seul, il sauve le truc. Parce que sinon c'est cata. Hein, c'est non, cata, mais cata. Hein.
C'est, je pense, Jérôme, que c'est la journée catastrophe pour Groupama FDJ. C'est complètement catastrophique. Parce qu'on nous dira peut-être l'âge de Lenny Martinez, mais ils ne sont que deux coureurs à être de moins de 21 ans. L'autre, c'est Kulseth de l'équipe.
Et fini devant.
Et il est dedans. Il est dans le ouais. bon coup. Il est dans le bon coup. Donc, c'est pas l'âge. Ensuite, l'histoire du fait que ce sont des grimpeurs, ben, y a des grimpeurs devant. Et quand on regarde tous les favoris, leader au sens large potentiel du Tour de France, le seul leader qui n'est pas dans le bon coup, c'est David Gaudu. Donc Gaudu
est encore leader là ce soir.
Martinez, et là où c'est terrible, c'est que Madouas, il pouvait prendre le maillot de meilleur grimpeur ouais. et il se fait lâcher. Et par qui? Et par qui il est devancé au jeu des sprints en haut des côtes? Par Abrahamsen, encore un coureur du NOx, qui a gagné cette année, Johan, tu m'as dit tout à l'heure, le grand à Bruxelles.
Exactement,
grand,
hein, voilà, voilà. À Bruxelles et deuxième à travers les Flandres.
Voilà, bon, à travers les Flandres, ça grimpe un peu. Mais on va dire que le gars, c'est un flahut, mais c'est pas un grimpeur. Donc le maillot de meilleur grimpeur, il était pour Valentin Madouas. Donc,
t'es très costaud, Abrahamsen, aujourd'hui.
Hein. Oui, il était très costaud. Donc aujourd'hui, ils ont tout perdu. Et on va dire le quatrième élément, Romain Grégoire. Lui, il arrive à 18 minutes 46 avec d'ailleurs notre champion de France, Paul Lapeyra, pour Décathlon à G2R, la mondiale. Voilà. Mais c'est la journée, l'une des pires journées pour Groupama FDJ dans l'histoire du Tour de France, parce qu'on veut bien, il y a eu des journées terribles après deux semaines ou trois semaines, mais là, c'est le premier jour et ils ne sont pas dans le coup.
Mais comment ça s'explique ça David nous parle d'un manque de préparation, Jérôme. Quand David Gaudu arrive sur le Tour et qu'il fait cette performance-là, il y a des questions énormes à se poser.
C'est l'ensemble de l'équipe hein, qui a sombré. Quentin Paché a été lâché très, très vite aussi. Quentin, normalement, une étape comme ça, il est longtemps devant. Romain Grégoire, on le présente comme la pépite
ils
de demain.
Ils arrivent ensemble, hein, tous les deux à 18h48.
Voilà, donc c'est pas normal. C'est un problème de préparation, un problème à la base. Après, peut-être que c'est une sale journée pour tout le monde et puis que dans 8 jours, tout le monde ira beaucoup mieux. Peut-être, mais en tout cas, le rendez-vous, le premier, on n'est pas là au jour J. Quoi. Au bal de mariage, t'es arrivé le lendemain. Quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, c'est pas fait pour lancer une bonne spirale. Si tu veux, à un moment donné, tu vois Romain Bardet qui va éclater partout, qui va être en jaune, le français, etc. Et toi, la grande équipe française avec Décathlon à G2R en ce moment... T'es à passer à travers, ton premier coureur, il est 18e et t'as pas une lueur d'espoir de dire on a fait une belle journée. Oui, avec Valentin, qui a un bon coup de pédale, mais qui a encore craqué au moment où il y a encore Jérôme Franck Vandenbroucke devant. C'est aussi, tu te dis, bah ouais, mais lui aussi, le petit Vandenbroucke, il était devant. C'est pas Madouas, je pense qu'ils ont pas le même niveau salarial, mais pourtant, lui, il fait deux. Tu te dis que oui, on a loupé quelque chose. Lenny Martinez, Fred, ça confirme ce qu'on a vu depuis un mois et demi maintenant. Il est sur le déclin.
Donc quand Marc Madiot nous dit...
Physiquement, attention, sur le déclin, physiquement, à son âge, évidemment pas, mais
parce que quand
il était pas prêt pour aller au tour.
Quand Marc Madiot répondait à Arnaud Souk tout à l'heure, on a écouté cette longue interview, Marc dit « finalement, on avait caché le fait qu'il viendrait sur le Tour de France, mais c'était prévu. »
Ils n'ont pas bien préparé.
Donc là, pour le coup, c'est pas bien. Je voudrais juste, et j'ai l'accord de François, donc François, j'aurais juste...
Bah, je ne sais pas, je t'ai donné un accord
visuel. Tu vas dire. Non, juste parce que j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient 48 à pouvoir encore gagner le Tour de France. D'ailleurs, les 48 qui sont... Alors, parmi eux, chez les Français, il y a Pavel Sivakov, dû à eux. Ouais. Donc, évidemment, lui, il va rouler pour Pogacar. Il y a Bruno Armirail, très intéressant, notre champion de France du contre-la-montre. Il y a Warren Barguil.
Le seul qui a pu accompagner Félix Gall chez Decathlon. Ils sont que deux coureurs Decathlon dans le
Il a peut-être gagné sa place pour les JO, Bruno Ramirez.
Oui, oui, ça c'est important. Oui, exact. Donc,
il enchaîne avec le Giro.
Il y a les deux compagnons de chambrée, Barguil et Bardet. Et il y a notre philosophe, Guillaume Martin. Et c'est tout. C'est-à-dire que pour le classement général pour les Français, c'est tout.
Ouais. Non, mais tu as raison. Bah,
Guillaume Martin.
Oui, voilà.
Guillaume Martin qui était dixième l'année dernière, Guillaume Martin de Cofidis.
Vous savez, peut-être que Romain va faire un très très bon classement général sans vouloir le faire.
Un peu comme Thibaut Pinot l'année dernière.
Je voudrais vous faire.
Ouais, c'est ça. Non, non, mais je dis que ça, c'est surtout que ça doit donner des idées à Warren Barguil.
Alors, on va remercier David d'être passé. Merci beaucoup, David.
De rien, juste un petit truc de ce que vous dites. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, il y a un Français qui peut faire podium, top 5, podium ou un top 10 au vu de ce qu'il y a eu
cette année?
Cette année, pour moi, il y a...
Non, pas cette année, David.
Là, c'est ce qu'on vient de dire, hein, David, sur l'énumération, là, c'est mort. Hein,
Ah non, moi, il n'y a personne. Ouais. Hein. Ouais. Moi, j'espère que ce sera Poggi qui va gagner cette année pour un peu... mettre en faux plan les plans de la Jumbo Visma.
Ouais, on a bien compris que ce n'étaient pas tes amis, les
gens de Visma.
David, c'est des potes.
C'est comme Ineos, il y a quelques années, où dès qu'il y avait une échappée, il neutralisait la
course. Non, mais je comprends bien.
Et on s'ennuyait. Moi, je m'endormais devant la télé. Je m'endormais devant la télé parce que c'était stéréotypé. Ils partaient, ils roulaient derrière et tout ça.
Mais David, après, voilà, pour l'histoire des Français, David, j'ai regardé aussi, parce que bon, sur l'avenir, on peut espérer Lenny Martinez, on avait actuellement David Gaudu. Il y a quelques noms qui ressortaient un petit peu, comme Kevin Vauquelin, comme Clément Champoussin. Eh bien, ces gars-là, ils ont, comme disait tout à l'heure Jérôme Pinault, sauté en même temps que les sprinteurs. Et donc là, ça fait mal. Là, ça fait mal parce qu'au niveau des classements... Alors, il y a les frères Paré-Peintre qui ont fait un très, très beau Giro. Il y a quelques gars, là, Baudin, Berthet, tout ça. J'ai l'impression qu'on avait un peu l'arbre qui cachait la forêt avec les ambitions de Gaudu. Et là, aujourd'hui, le cyclisme français des classements généraux des grands tours, hein, je ne parle pas des classiques, de tout ça. Mais à ce niveau-là, eh bien, c'est le néant.
Il y a eu Romain Bardet pendant... 15 ans.
Et il est encore là. Et Thibaut Pinot.
En 2019, le tour, il est pour Thibaut Pinot.
Bien sûr, c'est terrible celui-là. Il est terrible. Il y a deux tours.
On ne va pas refaire le tour 2019.
Non, mais les tours en neuf.
On peut faire le Giro 2021.
Bien sûr. Les tours en neuf, c'est terrible, David, parce qu'il y a 2019 Pinot, il y a 89 Fignon, où il doit gagner aussi pour 8
secondes. On va te remercier en tout cas.
Je ne peux pas te dire, j'avais 2 ans.
Oh, ne me dis pas ça, arrête. Ça me vieillit.
Mais voilà, si Thibaut Pinot nous écoute, il a tout mon respect, mon admiration, parce que c'est un coureur exceptionnel. Il m'a fait vibrer, pleurer, haïr le vélo, il m'a tout fait passer par toutes les émotions. Et c'est vraiment, je ne pense pas retrouver un coureur comme ça d'ici demain ou après-demain. Ça va durer encore longtemps.
Bon, en tout cas, David, merci beaucoup d'être passé 32-16-9. Tu reviens tous les soirs, 18h-19h. Tu reviens quand tu veux pour débriefer les étapes et pour parler, pourquoi pas, de nouvelles victoires françaises. Juste avant de retrouver Mickaël qui a fait le 32-16-9, je voudrais vous faire écouter un Français, justement. Madouas, de l'équipe Groupama FDJ. Alors, il ne parle pas de la performance de son équipe, mais plutôt de la performance de son compatriote Romain Bardet. Écoutez.
Enfin, franchement, c'est mérité. Hein. Quand je vois, il a été offensif, il a tenté des choses et ça fait plaisir que ça gagne, surtout sur des étapes comme celle-ci. Et le mérite après sa carrière.
Voilà, c'est très court cette petite réaction, mais évidemment, on va interroger tous les Français sur la victoire de Romain Bardet ce soir.
C'est évident, hein, quand tu es Valentin Madouas, tout le talent qu'il a, tu es devant, tu te fais rattraper par un Romain Bardet qui, on l'a vu, lui donne 2-3 consignes dès qu'il le rattrape, que le mec qui l'accompagne est avec toi depuis le départ, puisque Frank Vandenbroek est avec Valentin Madouas. J'en reviens sur la notoriété, la popularité et le niveau sportif et d'engagement financier auprès des deux coureurs. C'est quand même pas la même catégorie. Et Madouas, il passe la ligne à 20 minutes et il voit que Frank Vandenbroek fait 2 parce qu'il laisse gagner Romain. Et là, t'es content pour le mec, pour le Français, mais tu te dis quand même, waouh,
Il n'est pas le seul, Jérôme, parce que tu te souviens, on avait parlé de Matej Mohoric tout à l'heure. Ben, Matej Mohoric, même chose, il a lâché même avant Madouas. Elle était très particulière, cette étape. Je ne me souviens pas avoir
mais
vu...
Mais la chaleur a dû faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça qu'il faut tempérer ce qu'on vient de dire là. Parce qu'il faut... C'était très particulier. C'est un départ du Tour en Italie, un parcours très difficile et une chaleur très étouffante que n'ont pas connu les coureurs jusque-là. Peut-être que certains ont souffert de cela. On a vu Mark Cavendish avoir des crises de vomissement dans la descente du premier col. Ils ont pris la chaleur pleine tronche, les coureurs, et certains ne passent pas. Et tu vois, je ne suis pas loin de dire, et c'est un autre débat, que si Tadej aujourd'hui n'a pas déclenché, c'est que Tadej n'est pas très bon dans la grosse chaleur. Et je pense qu'il a préféré gérer le coup plutôt que de s'exposer à des efforts violents sous cette grande chaleur.
En revanche, Vingegaard, il adore la chaleur, c'est normal, il est danois, hein, il fait très très chaud au Danemark. Vingegaard, et en plus, il n'a pas couru pendant 85 jours, donc c'était normal qu'il soit bien là aujourd'hui.
Ouais, il sort du frigo là, tu vois, donc le temps que la température remonte, il est tranquille.
Il était congelé en fait, c'est ça, voilà, il décongèle tranquillement.
C'est ça, il décongèle plus là.
Décongélation
naturelle, sans micro-ondes.
Voilà. Non, mais ne soyons pas mauvaise langue, tant mieux pour lui, c'est un grand champion, il est là.
En tout cas, si on peut en faire deux minutes, il a prouvé aujourd'hui qu'effectivement, la condition elle est bonne hein, parce que sinon il l'aurait pété le garçon et l'équipe elle roule, il va rouler, il y a Van Aert, enfin t'inquiète, ça va pas mal, ça va vraiment pas mal.
Ouais, ça c'est une des indications aussi de cette première étape et c'est important de le signaler.
Rendez-vous en haut du Galibier dans 3 jours, c'est là qu'on saura si Vingegaard peut gagner le Tour de France à mon avis.
Ça dépendra du tempo, Fred.
On va suivre l'étape de demain, on aura le temps de s'y projeter. Mickaël a fait le 32-16 touche 9 pour rejoindre la radio digitale 100% route, c'est la radio spéciale Tour de France mise en place par RMC. Salut Mickaël.
Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Je crois que tu avais beaucoup d'émotions, toi, aujourd'hui.
Bonjour, Mickaël.
Bonsoir, Jérôme. Bonsoir aussi à Fred Brindel.
Bonsoir, Mickaël.
Ah ben oui, moi, je te connais très bien, Fred, et tu connais très bien ma famille.
Oh, c'est pas vrai.
Je suis très content de...
Sors pas les dossiers, dis pas ce que je fais en soirée. Hein.
Ça fait peur.
Tu connais, je pense, la famille Le Blacher.
Oh, bah c'est les Meldois. Alors là, attention les amis, c'est le CSMO.
Tu dois te rappeler de moi, je suis le tout petit, le dernier.
Oh, ça c'est beau, voilà, ça, c'est le petit frangin. Il faut me raconter, là, on comprend rien. Éric Le Blacher.
Ah, la famille d'Éric, d'accord.
Ah oui, bien sûr.
C'est moi qui tenais la coupe du prix d'équipe à Meaux, à Beauval, quand mon frère Hervé gagne. C'est moi qui commente en tant que speaker.
Oui, parce que je faisais speaker, moi, à l'époque, monsieur.
Exactement.
Et j'ai commenté avec Éric Le Blacher un super Gant Wevel Game, on avait fait un périple tous les deux.
Oui, oui. D'ailleurs, Eric, là il est en repos. C'est bon, comme vous venez de le dire, il est au frigo là. C'est bon. Voilà, il vient de sortir de la Race Across France. Je sais pas si vous. Voilà.
C'est un fou. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui s'entraîne plus que lorsqu'il était. Voilà.
Ouais. C'est un cycliste professionnel, ancien cycliste professionnel.
C'est ton papa donc, Mickaël. Professionnel. C'est mon frère.
Ah ton frère,
mon frère.
T'as pas entendu.
Il a été ancien coureur cycliste professionnel pendant 5 ans. Et maintenant, il s'est spécialisé dans l'ultra longue distance. Et il vient de sortir de l'ultra de la Race Across France, qui est une épreuve de 2600 km de Lille à Mandelieu, sans assistance. Ouais.
Non, mais ce qui est fou, juste la parenthèse, parce que.
Réunir. Mais tu as raison.
En fait, Eric, c'est la génération aussi, Jérôme Pinault. Et le cas d'Eric est très, et parlera beaucoup à Jérôme, et je pense qu'il est au courant. C'est-à-dire que Eric, par exemple, Marc Madiot voulait lui renouveler son contrat. Et il avait été sélectionné en équipe de France pour le championnat du monde, donc super coureur. Et Eric se dit non. De toute façon, je crois que j'ai aucune chance de gagner. Je ne joue pas à armes égales avec les autres. Et là où il y a clin d'œil, c'est-à-dire qu'au moment finalement où il a quitté le cyclisme, il s'est remis au sport encore plus. Peut-être plus intensément, voilà. Bon, c'est la génération des Fédrigo, des Cazards. Voilà, je les ai tant aimés.
Génération sacrifiée.
Mickaël.
Pour en revenir donc à l'étape du jour.
On commence par le début, hein, ton émotion, on m'a dit que tu étais très ému au moment de la victoire de Romain.
J'en ai pleuré parce que c'était super, quoi. J'ai failli casser mon canapé, limite. Non, je déconne. Non, mais c'était vraiment super, c'était génial. Moi, je voulais dire aussi que, je l'ai dit au standard, ce petit jeune-là, je le connaissais à peine, Van den Broek. Alors, il a un homonyme très connu, paix à son âme d'ailleurs, et qui était un coureur incroyable, mais lui, il est vraiment incroyable. S'il n'est pas avec Bardet, si Bardet ne l'a pas, Bardet ne gagne pas.
Exactement.
En fait. Et il fait quand même partie de la première échappée. Il est là depuis le départ. Il a fait toute la journée devant. C'est incroyable.
Vainqueur incroyable. Du Tour de Turquie cette année, Frank Vandenbroeck.
Incroyable. Et mêlé à tout ça, quel coup tactique de la DSM. Parce que quand Bardet attaque, lui, on lui dit dans l'oreillette, Romain, il est derrière, attends-le. Il le ramène et ils partent tous les deux. Franchement, ce petit-là, il a 23 ans. J'espère qu'il va avoir un grand avenir devant lui, hein, parce qu'il est vraiment incroyable. Vraiment. Et ça sent le retour d'appareil d'ici la fin du tour, ça. Je le sens bien. Mais
connaissant Bardet, c'est sûr qu'il va y avoir quelque
Bardet,
chose comme
je pense
ça.
Que, ouais, ça sent le retour d'appareil.
Autant que
ça.
Faire se peut, hein, c'est quand même pas de la console vidéo, mais autant que faire se peut, il l'aidera.
Et
hein,
puis,
ça, c'est sûr.
Ben, vous avez parlé, parce que je vous entendais en attendant. Bon, les Français, bon, surtout Godu, moi, j'y crois plus à ce mec-là.
Ah bah voilà. Non mais tu peux en dire plus. Hein,
non mais franchement, je sais pas pour être.
C'est quoi? On sent du dépit.
Moi j'y crois plus.
Tu es accru. Ça veut dire que tu es accru beaucoup à David Godu.
Oui, en étant quatrième du tour, vous sortez pas de nulle part quand même.
Ouais.
Quand Thibaut Pinot gagne au Tourmalet, c'est lui qui donne un sacré coup de main. Faut quand même pas l'oublier. Hein. David Godu. Hein. Donc quand tu fais quatrième et neuvième du tour.
Pas plus tard que l'année dernière à Paris-Nice, hein. L'an dernier à Paris-Nice, deuxième de Paris-Nice derrière Pogacar et troisième, et il est avec ces gars-là. Hein.
Devant je comprends garde. Pas déjà, alors ouais. Je sais pas votre avis, moi je comprends pas comment Marc Madiot a pu le prendre cette année. S'il est pas à 100%, laisse-le chez lui, quoi.
C'est un pari, mais ça montre bien, Michael, je pense, la problématique. Alors, il y a eu un changement dans sa vie. David Godu, il a déménagé. Avant, il était en Bretagne. Là, je crois qu'il est dans le sud de la France. Donc, avec des conditions de vie un petit peu différentes. Il y a eu l'embourgeoisement d'une certaine manière, puisqu'il était devenu le seul leader de l'équipe. Donc, je crois que le garçon... alors, il y a peut-être une histoire de virus. On peut avoir la mononucléose, je ne sais quoi. Hein, voilà. Mais...
Ouais.
Voilà, mais il y a forcément un changement dans sa vie qu'il n'arrive pas à digérer.
J'ai connu beaucoup de coureurs qui ont tenté le déracinement, et notamment les Bretons. Un Breton, il doit vivre en Bretagne. C'est comme ça. C'est...
Oui,
mais Warren Barguil a essayé, c'est pires années. Hein.
Moi, j'avais bien un autre truc, mais bon, après c'est moi. Hein. C'est moi. Ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Hein. Peut-être aussi, il se met peut-être trop de pression à vouloir tout jouer toujours sur le tour. Thibaut Pinot l'a fait. Thibaut Pinot s'est mangé plusieurs fois. Et depuis et après, ben, il a été sur le Giro, il a été sur la Vuelta, et il est revenu sur le Tour plus libéré. Est-ce que David Godu pourrait pas faire ça dès l'année prochaine? Se mettre au Giro?
Non, mais il faut qu'il retrouve
Je sais pas.
Il faut qu'il retrouve plus que ça, David.
Ce mec-là, là, il est. Je pense qu'il est un peu perdu. Je pense qu'il est un peu paumé. Il est peut-être même pas heureux d'être sur le Tour cette année. S'il est là, qu'il perd 20 minutes, ça va être quoi son tour?
C'est pour ça, n'interromps pas David Godu, je l'ai dit tout à l'heure. Pour ce Tour de France, oui, d'accord.
Non.
Pour les années futures.
Bien sûr que non. Mais là, si tu arrives sur le tour et que tu n'es déjà pas à 100%, il disait sur France Télé, il n'est pas à 100%. Bah, devant ma télé, je me disais, mais pourquoi ils l'ont pris alors? Qu'est-ce qu'il fait là?
Ce serait une édition charnière, je pense, pour David Godu. Je pense que c'était la dernière chance donnée par Marc Madiot. Il va y avoir discussion après, et c'est vrai que ce que tu disais...
Si t'es là pendant 3 semaines et que tu sers à rien, autant donner la place à Groupama, quoi.
C'est aussi peut-être une solution pour Marc Madiot de le mettre et de dire, voilà, devant le fait accompli, tu n'es plus au niveau, David, et on va faire autre chose.
Si je peux faire une parenthèse là-dessus, les gars, et c'est pas mettre en avant, mais moi, j'ai vécu ça. Je suis le seul autour de nous là qui a déjà vécu faire un Tour de France. Qu'en tant que Français, faire un Tour de France. Évidemment, j'ai jamais eu les mêmes attentes. Mais si on avait posé la question à David il y a 2 jours, écoute, tu viens au tour, mais sache qu'on prédit l'avenir, dans 2 jours, tu vas prendre 30 minutes sur la première étape. Croyez-moi, il ne serait pas venu. Parce que c'est horrible, c'est l'enfer. Le Tour de France, c'est génial si tu le croques, si tu marches, si tu es à l'avant, si tu es acteur. Mais quand tu es français et que tu subis le Tour de France, et encore en plus qu'on attend de toi des choses... C'est l'enfer.
Tu l'as connu, Jérôme. On attendait beaucoup de toi. On attendait beaucoup de toi. Et tu t'es mis aussi beaucoup de pression. Il y a eu cette deuxième place sur étape, là où tu passes, tu lèves le poing, tu te dis. Tu pouvais plus aussi, Jérôme.
Non, mais bien sûr, mais après.
Tu t'es pas assez entraîné, Jérôme. Je plaisante.
Cyril Guimard a souvent dit ça.
Oui, on s'est engueulé à l'antenne avec Cyril parce que.
Et puis d'ailleurs, c'était à Pau en 2002, gagné par Patrice Algan.
Exactement.
Et Lenny Martinez, un mot aussi sur lui, je pense. Oui, c'était hier. Et Lenny Martinez, moi, je pense qu'il est là pour apprendre. ne lui mettons pas trop de pression. Le gamin, il a 21 ans.
Clairement, clairement. Mais aujourd'hui, il pète pas, il pète pas, il se relève pas. Hein. Je pense pas qu'il se relève aujourd'hui. Il est.
Je pense que.
Il est un peu, il est un peu dans le dur. Maintenant, la troisième semaine du tour est très montagneuse. Voilà. Il est dans un pays, il est dans un terrain qui sera à sa convenance et il arrive dans son pays d'adoption. Hein, parce qu'on sait qu'il est, il est de Nevers, mais il vit dans le sud de la France. Peut-être qu'il a simplement préparé le tour pour arriver pic de forme dernière semaine pour pouvoir faire une très belle dernière semaine.
Il fait déjà une saison formidable. Oui, il fait déjà une saison superbe déjà. Déjà, et l'an dernier sur la Vuelta, il nous a prouvé qu'il pouvait dans les années à venir faire quelque chose. Donc, pour moi, quand tu disais Fred tout à l'heure sur les grands tours, les Français, c'est le néant. Bah, je trouve que c'est, je pense que c'est lui l'avenir. Mmh. Bon. Et il est tout jeune et laissons-le mûrir, laissons-le grandir.
Oui.
Ça, tu et je pense que l'année prochaine, il va. Il, alors, il, apparemment, alors, je ne sais pas s'il va quitter la Groupama ou pas. Mais même s'il, coupe la groupe, s'il quitte la Groupama...
Son agent, Johan Bredov, nous a dit...
Laissez-le grandir.
Donne les infos.
Laissez-le grandir. Laissez-le grandir parce que c'est un super grimpeur. Il est super bon.
Vraiment. Ok, Mickaël. Voilà. Bah, écoute, on est content de t'avoir permis de parler à Fred Bradel.
Ah, la bise aussi, à tous les Meldois. C'est donc, comme ça qu'on, habite, aussi, qu'on appelle les habitants de Meaux, les Meldois.
Et ben, on embrasse Meldois. Tous les Meldois.
Exactement.
Hein, évidemment, pas de jeu de mots, Fred. Tu vas te retenir.
Oh, à l'époque, j'étais animateur dans la radio locale. C'est là-bas que j'ai commencé. Et il y avait une grève. J'ai commencé en disant, j'étais jeune, hein, j'avais 25 ans, pardonne-moi, mais j'ai dit ce matin, beaucoup de Meldois à l'arrêt.
Très bien.
C'était la grève.
Donc on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Mickaël.
Quelle chute magnifique, à demain.
À demain, Jérôme, à demain, Fred, à demain, Johan. 11h, 13h, le prologue. 11h, ne manquez pas, c'est à partir de 11h. 11h, 13h, le prologue. Et puis tout de suite, n'est pas terminé le vélo sur la radio digitale du Tour de France, RMC 100% route. Ça continue, donc vous restez branchés parce que tout de suite, c'est Christophe Cessieux et sa bande pour revenir dès 19h dans l'After Tour sur la victoire de Romain Bardet. Quel début de tour on a et on va continuer d'en parler bien évidemment sur RMC. Restez avec nous.
RMC 100% route jusqu'à 19h. Roue libre.